Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui sera Christian Chavagneux, rédacteur en chef adjoint du mensuel Alternative Économique, rédacteur en chef de la revue L'économie politique et chercheur associé au Center for Global Politics Economy de l'Université de Sussex. Alors la semaine dernière, nous avions parlé de l'affaire Clearstream avec Denis Robert. Eh bien, à ce propos, on avait parlé de paradis fiscaux et j'avoue que jusqu'à présent, je n'avais rien compris de ce qu'était vraiment un paradis fiscal. Il se trouve que je suis tombée sur un petit livre qui vient d'être publié aux éditions de la Découverte dans la collection Repère, une collection d'un prix très très modeste, hein, c'est 8 euros. Un livre qu'a écrit Christian Chavagneux et Ronan Polan et qui s'appelle « Les paradis fiscaux ». Tout est d'une limpidité absolue, c'est d'une pédagogie hallucinante. Enfin, j'ai tout compris. Et bien, pour essayer de vous faire comprendre à vous aussi, j'ai été rencontrer Christian Chavagneux dans la rédaction d'Alternative Économique. Et voilà donc le résultat. Là, la question, elle est toute bête. C'est quoi un paradis fiscal? On en entend beaucoup parler, notamment à propos de l'affaire Clearstream. Je n'ai pas vraiment compris.
Un paradis fiscal, il n'y a pas vraiment de définition officielle d'un paradis fiscal. Donc nous, dans le bouquin qu'on vient de publier avec Ronan Polan, qui est un chercheur à l'université de Sussex, on a donné une dizaine de critères pour essayer de repérer les paradis fiscaux. Néanmoins, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que il y a beaucoup d'institutions internationales qui ont été tellement préoccupées de leur place dans l'économie mondiale que elles ont essayé chacune en fonction de leurs propres problèmes, qu'il blanchiment d'argent sale, qu'il contrôle des banques, etc., d'établir des listes, c'est-à-dire d'identifier les territoires qui aujourd'hui dans l'économie mondiale pouvaient jouer le rôle de paradis fiscaux, c'est-à-dire, comme disent certaines institutions internationales, de centres financiers offshore. Et pour être plus précis, un centre financier offshore, ça veut dire un centre financier où il se produit des transactions internationales qui sont un peu en dehors du contrôle des politiques publiques nationales ou internationales. C'est ça surtout la caractéristique forte d'un paradis fiscal, c'est qu'on peut y réaliser des transactions qui sont en dehors d'un contrôle public national ou international.
Mais les paradis fiscaux sont quand même des entités étatiques. Éventuellement, même quand on parle du Luxembourg, c'est quand même un État. Comment c'est possible de faire des choses qui sont en dehors du contrôle?
Alors c'est en dehors du contrôle des politiques nationales, des résidents qui vont utiliser les paradis fiscaux. C'est-à-dire, je suis français, je vais utiliser le Luxembourg, mais la France n'aura pas le droit, justement, du fait du respect de la souveraineté étatique nationale du Luxembourg, d'intervenir en disant vous n'avez pas le droit de le faire. Le Luxembourg est souverain, il a le droit d'écrire la loi. Et les paradis fiscaux utilisent leur capacité d'écrire la loi pour offrir des services aux riches, aux multinationales, aux mafieux. Et ils vendent leur souveraineté, comme dit Ronan Polan, ils vendent leur souveraineté internationale, ils vendent leur capacité, leur droit d'écrire la loi en écrivant des lois qui sont faites au profit des résidents d'autres pays et qui viennent un petit peu en contravention des lois des autres pays. C'est en ça qu'il y a un conflit de souveraineté, comme diraient les spécialistes de sciences politiques, entre les gens qui veulent, les pays qui veulent taxer leurs entreprises, leurs individus riches, leurs stars, et puis d'autres pays qui utilisent leur droit à écrire la loi pour offrir des services d'échappement au fisc et à plein d'autres choses, quoi, des contrôles réglementaires, des contrôles bancaires à ces mêmes individus.
Et actuellement, j'ai le droit d'aller au Luxembourg, par exemple, enfin, ou d'aller, je ne vais peut-être d'ailleurs pas avec ma petite valise, mais est-ce que j'ai le droit d'aller mettre de l'argent dans un...
Alors, il y a des transactions autorisées, il y a des transactions qui sont moins autorisées. Vous avez le droit tout à fait d'ouvrir un compte au Luxembourg et de transférer de l'argent au Luxembourg. C'est tout à fait autorisé. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est, par exemple, placer votre argent qui vous procure un taux d'intérêt. Et en France, quand vous faites ça, vous placez votre argent, ça vous rapporte des intérêts, vous payez des impôts sur les intérêts. Ouais. Vous pouvez cacher les intérêts que vous touchez au Luxembourg pour éviter de payer des intérêts en France. Et ça, vous n'avez pas le droit.
Ah, mais c'est invérifiable.
Alors, là, on rentre déjà dans la qualité des politiques publiques qui peuvent être mises en place pour vérifier ou pas. Jusqu'en juillet 2005, c'est invérifiable. En tout cas, quand le fisc français, par exemple, demandait à la Suisse de lui dire « Dites donc, est-ce qu'il n'y a pas des Français qui ont été cachés de l'argent chez vous ?» La Suisse disait « Je ne suis pas obligé de répondre. » Ou alors, un juge français demandait au ministère des Affaires étrangères français, qui demandait au ministère des Affaires étrangères suisse, qui demandait un juge suisse, et qui répondait quand il en avait envie. Depuis 2005, c'est plus ça. Parce qu'au sein de l'Union européenne, et avec quelques pays périphériques, l'Union européenne a signé une sorte de traité qui est lié à la directive européenne sur l'épargne, donc de l'épargne placée par les Européens, et qui dit la chose suivante. Soit, quand il y a le fisc d'un pays qui va demander à la Suisse ou à d'autres pays européens, au sein de l'Union européenne ou autour, dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas des gens de chez moi qui viennent placer de l'argent chez vous ? Le pays, il a deux solutions maintenant, depuis cette directive européenne de juillet 2005. Soit il donne l'information, soit il dit, moi, je ne veux pas vous donner l'information, mais en contrepartie, je vais prélever un impôt de 15% sur les revenus de ces placements, et puis on va se le redistribuer à nous deux. 75% pour vous, je garde 25% pour moi. Donc maintenant, il y a deux possibilités. Soit, et tous les pays de l'Union européenne ont accepté de mettre en place ces directives, beaucoup de pays autour de l'Union européenne ont accepté de mettre en place ces directives. Le mois dernier, on a appris que les îles Caïmans, les îles Vierges, des petites places exotiques, avaient aussi accepté de négocier avec l'Union européenne et d'entrer dans le cadre de la directive. Et maintenant, donc, il y a deux solutions. Si le fisc français dit à la Suisse ou aux îles Caïmans, est-ce que ce français-là, il cache pas de l'argent, c'est vous ? Deux réponses possibles. Soit le fisc suisse, par exemple, dit non, moi je veux pas vous le dire, par contre, s'il a de l'argent chez nous, je vais prélever, je vais vous redonner un petit peu. Soit d'autres pays, comme par exemple l'Espagne ou l'Angleterre, ont décidé de dire ok, on va faire de l'échange d'informations entre les fiscs et je vous donnerai l'info.
Finalement, les paradis fiscaux, là, ont acheté la paix des ménages, d'un certain côté, parce que l'impôt sur les gens qui vont placer des sous, par exemple, au Luxembourg, je présume qu'il serait taxé par l'impôt sur la fortune, il serait bien supérieur à 15%.
Ça dépend, parce que là, on parle plutôt d'un impôt qui porte sur les placements, et sur les intérêts qui sont touchés par les placements. Alors, le taux d'imposition est de 15% maintenant, mais progressivement, il va monter à 35%. 15%, c'est juste au début, il va monter jusqu'à 35%. Mmh. Les pays, la Suisse, l'Autriche, le Luxembourg, la Belgique, se sont engagés à ça, et quelques autres petites îles. Donc, le taux, il va bientôt monter, et surtout, ce qui est intéressant, c'est pas tellement le taux, je dirais, les revenus fiscaux que ça va apporter. C'est que ça va nous permettre d'avoir une estimation un peu plus précise que ce qu'on a aujourd'hui sur l'épargne qui se déplace là-bas. Parce qu'une fois qu'on va avoir le rendement de l'impôt, comme on sait que c'est 15% sur les intérêts, on va avoir le niveau des intérêts, et puis on va se dire, comme ça porte sur des placements liquides, en gros, aujourd'hui, les financiers vous disent, si vous allez placer votre liquide en Suisse, ça va vous rapporter 4%. Donc, en remontant la chaîne comme ça, on va pouvoir savoir on va pouvoir avoir une première approximation officielle du niveau d'épargne qui se déplace vers ces pays. Par exemple, la Suisse, elle a donné le montant de la retenue à la source qu'elle avait prélevée entre juillet 2005 et décembre 2005. Et quand on fait ce petit calcul, on s'aperçoit qu'on a identifié 30 milliards d'euros. Qui se dirige vers la Suisse. La Suisse était le premier pays à donner. Il y a quelques jours, à la mi-juin, Jersey a donné aussi ses chiffres. En faisant le même petit calcul, on est tombé sur un peu plus de 5 milliards. Donc, quand tous les pays qui ont opté pour la retenue à la source vont avoir donné leurs chiffres, on va avoir un bon paquet de milliards d'euros qu'on va identifier comme de l'épargne qui circule au sein de l'Union européenne et qui va vers les paradis fiscaux. Plus tout ce qu'on ne saura pas qui a été lié à l'échange d'informations, qui aura aussi été identifié par les fiscs. Donc ce qui est intéressant, plus que le montant vraiment des impôts qu'on va prélever, c'est qu'on va réussir à identifier une partie de ces flux qui, justement, voulaient utiliser les paradis fiscaux pour se cacher. Et ça, ça me paraît être une avancée intéressante.
Des sous et des hommes, et on est toujours en compagnie de Christian Chavagneux. Et si vous entendez des petits bruits derrière, c'est que Alternative Économique se trouve dans le sentier et qu'il y avait des ouvriers qui sortaient des vêtements. Ça faisait pas mal de bruit. Un petit truc que j'ai pas compris, le but de la manœuvre quand on place de l'argent dans un paradis fiscal, c'est d'échapper aux impôts du pays dont on est originaire, ou quand on est une société, de l'endroit où on a fait les profits, c'est ça ?
C'est ça. C'est ça.
Et c'est tout, c'est que ça.
C'est que ça. Ou alors quand on est un mafieux, c'est pouvoir faire circuler son argent sans que personne ne le sache et sans que personne n'arrive à mettre la main dessus. Mmh. Les entreprises, les riches, les mafieux, en gros, ce sont les trois clients des paradis fiscaux. Quoique, au-delà de ces grands clients, on s'aperçoit que ces dernières années, il y a eu une sorte de démocratisation, entre guillemets, de l'utilisation des paradis fiscaux, puisque les grands cabinets de conseils internationaux, de plus en plus, essayent de construire des produits financiers qui s'adaptent à des gens dont les niveaux de revenus sont de moins en moins élevés. Pour essayer, bien sûr, eux, à chaque fois, ils touchent une commission. À chaque fois qu'ils vous vendent un produit financier en disant « Mettez votre argent là, dans tel pays, avec selon telle et telle modalité », eux, ils touchent leur commission. Donc, jusqu'à présent, les mafieux, les grosses multinationales, les riches, les stars, et puis maintenant, de plus en plus, les patrons de PME, les gens qui ont des hauts revenus, pas forcément très très riches, mais qui ont des hauts revenus, et on essaie de toucher de plus en plus bas les gens qui pourraient être habilités à utiliser ces paradis fiscaux.
Là, vous avez utilisé le mot de multinationale. Donc, c'est pas simplement l'image que moi je pouvais en avoir de quelqu'un qui a des sous et qui paye quelqu'un pour aller transférer une valise pleine d'argent en Suisse. Les multinationales.
Les grandes entreprises internationales sont sûrement parmi les premières utilisatrices des paradis fiscaux. L'objectif pour elles est d'optimiser les impôts, comme elles disent, c'est-à-dire de les réduire au maximum en utilisant toutes les possibilités de contournement réglementaire qu'offrent les paradis fiscaux. Par exemple, une multinationale européenne qui est présente dans plusieurs pays européens, elle va s'arranger pour que ce soit sa filiale qui soit en Irlande qui fasse le plus de profit. Parce qu'en Irlande, vous êtes taxé autour de 10-12%, alors que si vous êtes une entreprise française, par exemple, et que tous vos profits vous les faites en France, vous serez plutôt taxé autour de 30-35%. Donc le différentiel vaut vraiment la peine. Et puis quand vous êtes une entreprise qui va aller encore plus loin, vous avez votre filiale aux îles, votre filiale qui va faire le plus de profit, vous la mettez aux îles Caïmans, vous la mettez dans des paradis fiscaux qui vraiment offrent un taux d'imposition minimum.
C'est une double question. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une filiale? Et puis surtout, comment on peut décider qu'une filiale est aux îles Caïmans, parce que si elle fait travailler des gens ici en France, elle ne peut pas être aux îles Caïmans. Enfin, j'arrive pas très bien à comprendre. Il n'y a pas d'usine aux îles Caïmans que je sache.
Tout à fait. Donc les multinationales, elles sont organisées généralement de la façon suivante. Il y a une maison mère, c'est là où on décide de la stratégie de l'entreprise. Donc là, c'est un bureau, des gens avec des costumes cravates et qui sont dans un bel immeuble. Et ça, on peut l'installer partout dans le monde, où on veut. On peut l'installer en France, on peut l'installer aux États-Unis, on peut décider que ce sera aux îles Caïmans. Et puis, il y a cette maison mère, donc celle qui décide tout, elle crée des autres petites entreprises qui lui sont dépendantes, c'est ce qu'on appelle des filiales. Alors, il y a plusieurs types de filiales, il y a des filiales productives, c'est là où on met les usines, il y a des filiales commerciales, ça peut être juste des boutiques, c'est là où on va vendre les produits, et puis il y a des filiales qui sont administratives, on peut décider par exemple de mettre toute la gestion de la recherche. On peut décider de mettre toute la gestion de la trésorerie. On peut décider de mettre la direction financière. On peut décider de mettre la comptabilité, par exemple, seulement. Et on peut décider que on va utiliser l'une de ces filiales pour faire transiter, pour faire circuler les biens qui sont produits dans les usines, dans une filiale, et qui sont vendus dans un autre pays par la filiale commerciale. Et l'intérêt de ça, c'est que quand vous êtes dans un pays, par exemple aux îles Caïmans, vous avez juste une coquille vide en fait. Vous avez raison, il n'y a pas d'usine, ils emploient une personne ou deux, et encore généralement, quelquefois c'est juste une plaque, on n'emploie personne. L'avantage, c'est que vous achetez quelque chose très peu cher dans votre filiale où il y a les usines, par exemple en France. Vous produisez votre produit en France. Vous l'achetez très peu cher. Vous faites acheter par votre filiale qui est aux îles Caïmans très peu cher. Et cette filiale, si vous voulez vendre aux États-Unis votre produit, elle va le revendre au contraire à une autre filiale aux États-Unis extrêmement cher. Donc elle achète pas cher, elle revend très cher, elle va faire des gros profits. Des gros profits. Alors que la filiale française qui a produit, elle va vendre pas cher. Et sûrement elle a des coûts importants, elle va faire des petits profits, voire des pertes. En France où c'est beaucoup taxé, petits profits ou pertes, pas beaucoup d'impôts. Aux îles Caïmans, on n'achète pas cher, on revend très cher, énorme profit, mais pas beaucoup d'impôts. Et on revend aux États-Unis très cher, donc la filiale américaine, elle va être obligée d'acheter très cher, elle va revendre plus ou moins cher, petit profit ou pas beaucoup de profit, très peu d'impôts. Tous les profits sont situés dans la filiale, dans l'unité de ces grands groupes où l'imposition est la plus faible. Et c'est ça qui est intéressant pour les multinationales, c'est ça qui leur permet d'utiliser les paradis fiscaux. Alors, il y a une chose qu'il faut préciser, c'est que quand on est une filiale d'une entreprise, on échange et on se vend des produits avec d'autres filiales de la même entreprise. Et là, le prix, les techniciens ils disent que ça s'appelle un prix de transfert, le prix auquel on se vend à l'intérieur des multinationales. Alors bien sûr, la loi internationale dit un prix de transfert, ça doit être la même chose qu'un prix entre deux entreprises qui ne se connaissent pas du tout. Seulement, quand on se plonge un petit peu dans les prix de transfert, il y a des Américains qui se sont plongés dans les prix de transfert, ils se sont aperçus de choses extrêmement bizarres. Par exemple, des seaux en plastique achetés en Tchéquie par une filiale dans un paradis fiscal, revendus aux États-Unis pour $970 le seau en plastique. Ça fait un peu cher le seau en plastique. Des gants achetés en Chine pour plus de $4000 le kilo. Ça fait cher le gant. À l'inverse, des lance-missiles vendus des États-Unis vers Israël à $50 le lance-missile. À ce prix-là, on comprend pourquoi le terrorisme international peut se développer. C'est vraiment pas cher le lance-missile. En fait, tout ça, ces prix de transfert sont un peu des prix de triche, qui permet de encore, c'est le même mécanisme un peu expliqué avec des exemples que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire, on fait acheter très peu cher par la filiale qui est située dans le paradis fiscal et revendre très très cher pour que tous les profits soient là. Et ça, ce problème des prix de transfert, il est au cœur de l'utilisation par les multinationales des paradis fiscaux.
Et il y a des grosses multinationales que je connais, je sais pas, du type Danone, des grosses comme ça, ou n'importe lesquelles
d'autres. IBM, Microsoft, toutes les grandes multinationales, les 250 premières multinationales que vous connaissez, toutes les plus grosses, Coca-Cola, toutes les plus gros noms de multinationales que vous connaissez, toutes utilisent les paradis fiscaux, bien sûr.
Sans que les gouvernements de leur... comment on pourrait dire, de leur pays d'origine, si ça a encore un sens, des fois, pour des multinationales, ne réagissent.
Les gouvernements réagissent, mais c'est une négociation diplomatico-économique au jour le jour, je dirais. Quand vous êtes en France, vous préférez que l'entreprise en question peut-être paye un peu moins d'impôts, mais vienne installer l'usine chez vous, parce que ça crée des emplois. Donc l'entreprise, elle vient à Bercy, par exemple, en France, puis elle dit, je sais que le taux d'imposition, c'est ça, mais peut-être que vous pourriez faire un effort, parce que je vais créer une usine, là, je vais embaucher 800 personnes dans tel coin, et puis si vous acceptez d'ailleurs de me donner une petite aide, je peux aller en Lorraine, et puis j'en embaucherai 1000, mais à ce moment-là, il faut encore me diminuer les impôts, ou en tout cas pendant 5-6 ans. Donc c'est une négociation permanente entre les multinationales et les pays d'accueil qui les reçoivent. Ça se négocie. Quand on est riche, important, une multinationale, quelqu'un de riche, l'impôt, ça se négocie.
À l'IGFM, donc, des sous et des hommes, et on est toujours en compagnie de Christian Chavagneux, qui a écrit ce merveilleux petit livre pédagogique très très bien documenté qui s'appelle « Les paradis fiscaux ». Le titre est un peu simple, on aurait presque pu l'appeler « Les paradis fiscaux à l'usage des nuls », parce que vous verrez, même moi je finis par comprendre. Je fais souvent d'une naïveté redoutable, mais il n'empêche que j'ai quand même lu votre livre. Et dans la liste des paradis fiscaux que vous citez, il y a Londres. Alors moi, je suis étonné parce que je pensais que c'était une grande place financière, mais propre.
Londres est effectivement la première place financière mondiale. On pense souvent que c'est les États-Unis, mais la première place financière mondiale est Londres. Et les calculs qu'on a fait à Cronin Palan, effectivement, pour essayer de mesurer la place de chaque place financière dans les transactions internationales des banques, on s'est aperçu que 40% en termes de paradis fiscaux, on s'est aperçu que la moitié à peu près des transactions internationales des banques passaient par les paradis fiscaux, et que dans cette moitié, ça se répartissait de la manière suivante. Londres, 40%, les autres grandes places financières des pays développés, 30%, et puis les petites îles exotiques, celles dont on parle souvent quand on parle paradis fiscaux, 30%. On pourrait dire, si vous mettez la plus grande place financière mondiale dans n'importe quel groupe, ce groupe il va être important, mais Londres n'est pas vraiment un paradis fiscal. Si, Londres est un paradis fiscal pour plusieurs raisons. L'un des principes des paradis fiscaux, c'est d'avoir une loi fiscale pour les nationaux et une loi fiscale pour les gens qui habitent pas chez vous. Et Londres est typique de ça. D'ailleurs, entre parenthèses, le ministre des Finances britannique aujourd'hui, Gordon Brown, mène une guerre terrible contre les Britanniques qui veulent utiliser les paradis fiscaux. Et d'ailleurs, il est en train de la gagner. Il a obtenu, par exemple, la levée du secret bancaire. La banque Barclays, et donc derrière la banque Barclays, toutes les autres grandes banques britanniques ont été obligées de donner au ministre des Finances les noms des gens qui avaient ouvert des comptes courants dans les petites îles anglo-normandes avec carte de crédit. Et des gens qui veulent utiliser des revenus, aller planquer leurs revenus à Jersey, à Guernsey. Et il a mené une bataille qu'il a gagnée. Fin de la parenthèse. Ce qui veut dire qu'on peut être un paradis fiscal et avoir une autorité politique nationale forte contre les pratiques de fiscales douteuses de ses propres résidents. Et on veut bien être un paradis fiscal, mais pour les autres. Donc Londres est de fait un paradis fiscal parce que à la fin des années 50, en 57 pour être plus précis, la Banque d'Angleterre a soutenu la création d'un machin un peu complexe qu'on appelle le marché des euro-dollars. Alors des euro-monnaies, ça n'a rien à voir avec l'euro, hein. Ce sont des devises qui sont déposées dans une banque et prêtées en dehors du territoire national. Des euro-dollars, c'est des dollars qui sont prêtés, qui sont déposés et prêtés en dehors des États-Unis. Et en 1957, la Banque d'Angleterre et puis quelques banques privées, elles se sont aperçues de la chose suivante. La livre sterling avait perdu son statut de monnaie internationale. Par contre, le dollar était en train de devenir une monnaie internationale très très importante. Et les Anglais, là, ils se sont dit, ok, tant pis, on abandonne le fait de défendre le rôle international de la livre sterling, mais si tout ce business en dollars qui est en train de progresser, il se faisait chez nous, on resterait un grand centre financier. Et donc, ils ont commencé à autoriser des dépôts en dollars et des prêts en dollars en dehors de tout contrôle public, boostant vraiment fortement cette finance offshore, cette libéralisation financière dont on parle tant aujourd'hui. La libéralisation financière contemporaine, elle naît là, en 1957, en accord avec la Banque d'Angleterre, donc une autorité publique chargée de surveiller les marchés. Elle a accepté que se développe ce marché des euro-dollars pour que ce business se fasse sur la place de Londres. C'est une stratégie gagnante. Ça a été une stratégie gagnante. Londres est aujourd'hui la première place financière. Et donc, multipliant ensuite, à partir de ce marché des euro-dollars, les services offerts aux riches, aux grandes entreprises, etc., s'est développé ce comportement de paradis fiscal à destination du reste du monde. Il y a un Britannique qui était chargé de surveiller vraiment tout le système financier britannique. Il y a une autorité en Angleterre qui surveille tout ça. Et quand on lui a dit, mais dites donc, est-ce que vraiment Londres est un paradis fiscal ? Et donc le gars chargé de surveiller tout le système financier britannique, il a dit, quand vous le cachez une aiguille, vous cherchez une meule de foin. Et Londres aujourd'hui est l'une des plus belles meules de foin. Donc les autorités financières britanniques savent elles-mêmes que leur pays, leur système bancaire, est utilisé comme paradis fiscal. Par les grandes entreprises, par les gens très riches, par les mafieux. À la fin de 2005, le successeur de la personne dont je vous parle, donc celui qui toujours aujourd'hui contrôle l'ensemble du système financier britannique, a dit publiquement, généralement on ne dit pas publiquement ce genre de choses, qu'il savait que dans beaucoup de grandes banques installées à Londres, il y avait des mafieux qui venaient apprendre les méthodes de contrôle des banques pour pouvoir mieux les détourner, et qu'il avait la preuve de ça. Donc Londres aujourd'hui est une plaque tournante, comme le sont d'ailleurs tous les grands premiers marchés financiers du monde. À la fin du 19e, on a trouvé des choses qui montrent qu'à la fin du 19e siècle, au moment où Londres était déjà une grande place financière, tous les bandits, tous les gens qui avaient de l'argent à cacher passaient déjà par Londres. Donc il y a une véritable histoire de long terme qui place Londres comme un centre financier très important par lequel passe de l'argent un peu douteux.
Et quel est l'intérêt de Londres dans cette affaire-là, d'être la première place financière et en particulier...
C'est qu'à chaque fois qu'il se passe des transactions financières, on prend sa commission. Et donc, ça contribue, la finance internationale contribue entre 10 et 15% du PIB de l'Angleterre aujourd'hui. Donc c'est un poids vraiment important, ça emploie beaucoup de gens, ça permet de développer des activités de services très sophistiquées, de haut niveau, qui se passe sur votre territoire. Donc ça vous place dans la mondialisation sur des segments qui sont fortement rémunérateurs, avec des gens très très qualifiés. C'est toujours un avantage pour un pays.
Et oui, donc c'était des sous et des hommes en compagnie de Christian Chavagneux. Alors je vous rappelle le titre de son petit livre, donc il a écrit en collaboration avec Ronan Polan. Ça s'appelle Les paradis fiscaux, c'est aux éditions La Découverte et c'est dans la collection Repère. Cela coûte 8,50€, donc un prix très très modique. C'est absolument limpide, lumineux. Et bien justement, pour comprendre encore mieux ce que sont les paradis fiscaux, il nous reste la dernière émission de la saison de Dessous. Ça sera pour le 4 juillet, ça sera peut-être déjà en vacances, mais bon. Je voulais aussi vous signaler, mais je pense que vous n'ignorez pas, qu'il est question, semble-t-il, que l'émission de Daniel Mermet, l'autre émission modeste et géniale, soit déplacée de 17h à 15h, ce qui voudrait dire qu'elle serait amputée de la moitié de ses auditeurs. aller au moment où les élections de 2007 sont à l'horizon, un tel déplacement n'est sans doute pas anecdotique. De la même façon, j'ai cru entendre, mais c'est une information à vérifier, que le mot de la fin de... Je vais avoir perdu son nom, mais vous connaissez sans doute le fameux mot de la fin d'Alain Rey, risque lui aussi d'être supprimé. Or, si on était assez attentif, on sentait des choses dans les petits mots d'Alain Rey. Alors, vous pouvez, en tous les cas, pour Daniel Mermet, signer la pétition qui a été mise en ligne. Je crois, sauf erreur de ma part, hein, donc elle est sur le site de Là-bas si j'y suis, non officiel. Il me semble bien que c'est www.là-bas, avec un tiret entre là et bas, .org. Si vous ne trouvez pas l'information, ben n'hésitez pas à aller sur le site de Dessous, www.dessous et des hommes, avec un tiret entre chaque mot. Puis vous m'envoyez un petit mot, je vous transmettrai des précisions. Voilà, à la semaine prochaine, toujours avec Christian Chavagneux.